Chapitre 76. Comme toujours, César s'était jeté en avant, se fiant à sa fortune. Arrivé sur la côte d'Afrique, il se trouva avoir peu de vivres pour les hommes et pas de fourrage pour les chevaux. Mais on s'était trouvé à Dyrrachium dans une position bien autrement difficile. On mit les hommes à la demi-ration, on établit des pêcheurs sur la côte pour avoir du poisson frais, et quant aux chevaux, on les nourrit avec de la mousse et de l'algue marine que l'on faisait macérer dans l'eau douce et à laquelle on mêlait un peu de chiendent. Pendant son court séjour en Sicile, on avait fort entretenu César des forces de Scipion. Scipion avait, en effet, 120 éléphants et 10 légions, sans compter 4 qu'avait formé Juba. En outre, un nombre infini de gens de trait et une formidable flotte. Le surlendemain du jour où il avait abordé près d'Adrumète, où commandait Considus avec 2 légions, César vit tout à coup apparaître le long du rivage et parallèlement à lui, Pison, avec toute la cavalerie de la place et 3000 numides. César avait 3000 hommes et 150 chevaux, le reste de ses troupes n'étant pas encore arrivé. Voyant son infériorité, il se retrancha devant la ville sans permettre à personne de courir ni de piller. De leur côté, les remparts de la ville se garnissaient de troupes qui, visiblement, s'apprêtaient à faire une sortie. César alors prit quelques hommes, fit le tour de la place à cheval pour la reconnaître et rentra dans son camp. Alors commencèrent contre lui les doutes, contre son génie les murmures. Comment César n'avait-il pas donné, comme c'était son habitude, des ordres cachetés à ses officiers? Comment n'avait-il pas indiqué un point de ralliement sur toute cette immense côte d'Afrique, au lieu de laisser sa flotte errer au hasard? Mais, à ses reproches, César répondit d'un seul mot. Comment eût-il fixé un lieu de rendez-vous sur une côte où pas un point ne lui appartenait? Comment eût-il exposé ses lieutenants, qui se faisaient battre partout où ils n'étaient pas, à se faire écraser en son absence, si par hasard leur vaisseau marchait plus vite que les siens? Ne valait-il pas mieux attendre que lui-même eût choisi un lieu de débarquement, et alors tout rallier à lui? Puis la position était loin d'être aussi mauvaise qu'on le disait. On pouvait traiter avec Considus. Plancus, un des lieutenants de César, ancien ami de Considius, en reçut l'autorisation. En conséquence, Plancus écrivit à Considius pour tâcher de le ramener à César et lui envoya un prisonnier avec sa lettre. « D'où viens-tu ? » demanda Considius. « Du camp de César, » répondit le prisonnier. « Et pourquoi viens-tu ? » « Pour t'apporter cette lettre. » « Que l'on tue l'homme et qu'on renvoie la lettre à César sans la décacheter, » dit Considius. Les deux ordres furent exécutés. Il s'agissait de battre en retraite. César abandonna donc son camp, mais, aussitôt sa résolution connue, ceux de la ville sortirent sur lui et la cavalerie numide se mit à ses trousses. Alors César fit faire halte à son infanterie, pesamment armée, et donna ordre à 25 ou 30 cavaliers gaulois, qu'il avait par hasard avec lui, de charger les 2000 numides de Juba. Les Gaulois partirent au galop et, par un miracle, mirent en fuite ce tourbillon d'ennemis. César reprit sa marche, mettant à l'arrière-garde ses vieilles cohortes, auxquelles il venait de faire voir à quels ennemis elle avait affaire, et sa cavalerie, à laquelle les 30 Gaulois venaient de donner l'exemple. De sorte que la poursuite de l'ennemi se calma quelque peu. D'ailleurs, au milieu de tout cela, chacun avait les yeux fixés sur César, et comme on le voyait, selon son habitude, le visage calme, plus que calme, souriant, chacun disait « Le général est tranquille, tout va bien ». Et chacun faisait son devoir. En effet, la situation s'améliorait. Les villes et les forteresses devant lesquelles on passait envoyaient des vivres à César et lui faisaient dire qu'elles étaient à lui. Aussi s'arrêta-t-il dans ces conditions près de Ruspine et en partit-il le lendemain pour se rendre à Leptis, ville libre et se gouvernant elle-même. Leptis lui envoya faire les mêmes offres. César fit garder ses portes par des hommes à lui, sentinelles sévères, ayant ordre d'empêcher ses soldats d'entrer. Il craignait quelque désordre et ne voulait pas que ce désordre lui aliénât les habitants. Puis il campa aux portes. Dès le lendemain, la fortune de César amena en vue de Leptis une partie de ses vaisseaux de charge et quelques galères. Ils apportaient la nouvelle que le reste de la flotte, incertaine du lieu de débarquement et ayant appris qu'Utique était dans de bonnes dispositions pour César, avait fait voile vers Utique. À l'instant même, César expédia 10 galères. Les unes allaient recruter des hommes et des munitions en Sardaigne. Les autres allaient chercher un convoi de vivres en Sicile. Les autres, enfin, étaient chargés de rallier la flotte et de la ramener à Leptis. Alors César alla de Leptis à Ruspine, où il fit des amas de vivres et de bois, et dans lesquels, si faible qu'il fût, il laissa des garnisons, afin que ces villes, en cas de défaite, devinssent des refuges pour la flotte. Et avec des ennemis tels que ceux auxquels on avait affaire, il fallait tout prévoir. Un jour que ces soldats, n'ayant rien à faire, s'amusaient à regarder un Africain qui dansait et jouait de la flûte, et que, charmés de ce spectacle, ils avaient laissé leurs chevaux au palefrenier et s'étaient assis autour du mime, l'applaudissant et criant « Bravo !» avec la même tranquillité et le même enthousiasme que s'ils eussent été dans le cirque de Rome, tout à coup, la cavalerie numide les enveloppa, fondit sur eux et, poursuivant les fuyards, entra pêle-mêle avec eux dans le camp. Si bien que, si César et Pollion n'étaient sortis ensemble et ne s'étaient personnellement jetés à leur secours, avec ces Gaulois si difficiles à intimider, la guerre était tout simplement finie ce jour-là. Dans une autre rencontre à peu près pareille, une panique dans le genre de celle de Dyrrachium s'empara des soldats. Un porte-étendard prenait la fuite avec son aigle. César courut à lui, le saisit au cou et, lui faisant faire volte-face, lui dit « Tu te trompes, c'est là qu'est l'ennemi. » Sur ces entrefaites, au moment où César, inquiet, allait laisser des garnisons dans les deux villes de Ruspine et de Leptis et se mettre lui-même à la recherche de sa flotte, on signala un grand nombre de voiles que l'on reconnut bientôt pour des voiles amies. C'était la flotte, ralliée par les galères envoyées après elle, qui venait rejoindre César. Cela nécessitait un renfort de vivres. César prit 30 cohortes et s'avança dans l'intérieur du pays pour opérer une razzia. Mais il n'avait pas fait 3/4 de lieue que ses éclaireurs se replièrent, annonçant l'ennemi. Presque en même temps, on vit s'élever une grande poussière. César rallia aussitôt 400 chevaux et quelques hommes de trait, et ordonnant à ses légions de le suivre au pas, il poussa une reconnaissance vers ce qui paraissait être un gros ennemi. C'était Labiénus. L'ancien lieutenant de César rangea ses hommes sur un front si pressé que, de loin, et quoiqu'il n'y eût que de la cavalerie entremêlée de gens de trait, avec des escadrons de réserve sur les ailes, on eût dit que c'était une masse d'infanterie. En conséquence, César rangea ses 30 cohortes sur une ligne, couvrit avec ses archers le front de bataille et le flanc de sa cavalerie, ordonnant à chacun de faire ses efforts pour ne point se laisser envelopper. Mais tout à coup, César, demeurant immobile et attendant l'événement, vit à qui il avait affaire, car la cavalerie ennemie commença de s'étendre et d'envelopper ses ailes, tandis que, du centre de bataille, elle poussait une charge entremêlée d'infanterie légère. Non seulement les Césariens soutinrent le choc de pied ferme, mais encore, ayant chargé sur cette charge, les cavaliers numides, pendant que l'infanterie en venait aux mains avec les Césariens, s'envolèrent comme des oiseaux, allèrent se reformer à 500 pas de là, puis revinrent au grand galop lancer leurs traits, puis s'envolèrent de nouveau. C'était une nouvelle manière de combattre et qui faillit être fatale aux soldats de César, car ceux-ci, voyant les cavaliers numides se retirer, croyaient les voir fuir et s'élançaient à leur poursuite. Alors César mit son cheval au galop et courut sur toute la ligne, car il avait vu du premier coup d'œil ce qui arrivait. Les soldats, en s'élançant à la poursuite de la cavalerie, découvraient leurs flancs à l'infanterie légère qui les perçait de flèches. Il cria donc lui-même et fit publier qu'aucun n'eût à avancer de plus de 4 pieds en avant du front de bataille. Mais malgré toutes ces précautions, la situation devenait de plus en plus grave, car toute la cavalerie ennemie, se fiant sur son ombre, enveloppait complètement les 30 cohortes de César, de sorte que celui-ci était forcé de combattre en rond. En ce moment, Labienus, cet ennemi acharné de César, celui qui avait massacré les prisonniers de Dyrrachium, celui qui avait juré la veille de Pharsale de ne prendre de repos que César vaincu, Labienus avança hors des rangs humides, tête nue, et se tournant vers les Césariens. « Oh, oh !» leur cria-t-il, « nous faisons bien les braves pour des soldats nouveaux !» Alors, à son tour, un Romain sortit des rangs, et comme dans l'Iliade, « Je ne suis pas un soldat nouveau, dit-il, je suis un vétéran de la 10e Légion. »« Où sont donc ces étendards ?» reprit Labienus, « je ne les vois pas. »« Attends, répondit le soldat, si tu ne vois pas les étendards, tu reconnaîtras, je l'espère, ce javelot. » Et en même temps, enlevant d'une main son casque, il lança de l'autre son javelot en criant « Tiens, voilà qui te vient de la 10e Légion !» Le javelot partit en sifflant et s'enfonça dans le poitrail du cheval. Le cheval et le cavalier tombèrent et un instant on crut Labienus tué. Pendant ce temps, César étendait son armée sur un front immense et tournant à chaque extrémité de la ligne la face d'un bataillon contre l'ennemi, il partit à la tête de sa cavalerie et donna dans le centre des Pompéiens qu'il brisa du choc. Aussitôt, et sans s'amuser à les poursuivre, César tira en arrière, de peur de quelque embuscade, et marchant en bon ordre vers son camp. Mais avant qu'il y fût arrivé, Pison et Pétréius étaient, avec 1100 chevaux numides et beaucoup d'infanterie légère, arrivés au secours de l'ennemi. Ralliés par ce renfort, les Pompéiens s'étaient élancés à la poursuite de César. César ordonna de faire halte, laissa approcher l'ennemi, fit donner toutes ses troupes à la fois et repoussa les Pompéiens au-delà des collines. Après quoi, il se retira lentement dans son camp, tandis que Labienus se retirait de son côté dans le sien. Le lendemain, le combat recommença. Labienus avait avec lui 800 chevaux gaulois et germains, outre les 1100 que lui avait, la veille, amené Pison et Pétréius, 8000 numides et 32000 hommes d'infanterie armés à la légère. Il croyait que, présentant le combat en rase campagne à César, César n'oserait point l'accepter. Mais César sortit en rase campagne et attaqua le premier Pétréius. La lutte dura depuis 11 heures du matin jusqu'au coucher du soleil. César resta maître du champ de bataille, ce qui équivalait à une grande victoire vu l'infériorité de ses troupes. Labienus eut un grand nombre de blessés qu'il fit transporter à Hadrumète dans des chariots. Pétréius, atteint d'un javelot au milieu de la mêlée, fut obligé de se retirer en arrière et de cesser de combattre de sa personne. Enfin, les honneurs de la journée furent à César. Mais il comprit que, tant que ses troupes ne seraient pas complètement réunies, c'était miracle que de lutter contre des forces quadruples des siennes. En conséquence, il fit tirer 2 retranchements de son quartier et de la ville de Ruspine jusqu'à la mer, afin de pouvoir communiquer avec l'une et avec l'autre et recevoir sans danger pour eux les secours qu'il attendait. Puis il fit décharger les armes et les machines qui se trouvaient sur les vaisseaux et arma les soldats que portait la flotte de Rhodes et des Gaules. Son intention était de les entremêler à la cavalerie, à l'exemple de l'ennemi, et cela devait avoir d'autant plus d'effet que la flotte de Rhodes amenait d'excellents archers de Syrie. La chose était urgente. Scipion arrivait dans 3 jours, César en avait eu la nouvelle certaine, et cela avec 8 légions, 4000 chevaux et 120 éléphants. Mais 3 jours pour César, c'était 3 mois pour un autre. En 24 heures, des ateliers furent établis qui forgeaient des flèches et des javelots. Puis, comme on prévoyait que ce qu'on avait de fer serait bientôt employé, César dépêcha des vaisseaux pour aller chercher en Syrie du fer, des clés et du bois à faire les béliers, aucun des bois qui poussaient sur la côte d'Afrique n'étant bon à cet emploi. Enfin, il n'y avait plus de blé, tous les laboureurs ayant été enrôlés par les Pompéiens, tout le grain qui était dans les villes en ayant été retiré, toutes les places fortes étant épuisées. Il se mit à caresser les citoyens et bientôt se fit si tendrement venir d'eux que chacun finit par partager avec lui ce qu'il avait enterré, conservé, caché pour lui-même. Quand César voulait, rien n'était impossible à César.